Les jeudis à 13h30 et les samedis à 11h sur Fréquence 7, c'est l'heure de Place Publique. Et aujourd'hui, Place Publique accueille Bernard Chevillard. Bernard Chevillard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Place Publique qui aujourd'hui ouvre avec vous un autre volet de la dynamique de ce territoire, celui de l'économie, celui de la créativité, de la création, de l'entrepreneuriat. Car si le politique a des projets d'aménagement du territoire, encore faut-il que celui-ci soit dynamique. Et choisir aujourd'hui comme invité, vous Bernard Chevillard, ce n'est pas un hasard, et cela pour plusieurs raisons. Alors je pourrais en mettre plusieurs, j'en ai retenu trois. Il y a l'actualité tout d'abord, puisque vous venez de créer une nouvelle revue, Ultrea, une maison d'édition qui s'appelle Ozoni, parce que vous faites le lien entre agencement politique du territoire et entrepreneuriat en vous installant par exemple à la pépinière d'entreprise de la Chapelle sous Aubenas. Et puis un petit 3, parce que vous êtes également l'un des meilleurs exemples, je pense, du entreprendre et réussir en Ardèche avec les gens de territoire, au travers par exemple du développement de la société Melvita que vous avez créée il y a de cela plus de 30 ans. Alors, Bernard Chevillard, avant de parler de cette nouvelle aventure qui est la maison d'édition Ozoni et de la revue trimestrielle Ultrea, pensez-vous qu'aujourd'hui il est encore aisé de créer son entreprise, qui plus est en Sud-Ardèche?
Je crois volontiers qu'il est difficile de créer son entreprise, mais que c'est une belle aventure et que ça mérite d'être tenté. J'invite toutes les personnes qui veulent à se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, non pas de façon casse-cou, mais véritablement en prenant ses positions et en essayant de se développer. Il ne faut pas rester inerte. Sur un territoire, quel qu'il soit, on peut effectivement réussir et se développer. Donc c'est vrai que faire en Sud-Ardèche une entreprise comme une maison d'édition, ça peut sembler, même s'il y en a déjà beaucoup, difficile et plus difficile que peut-être si on le faisait à Paris par exemple ou à Lyon. Mon sentiment en tant qu'entrepreneur de longue date, c'est qu'on peut trouver toutes les ressources, ou en tout cas suffisamment de ressources, dans un territoire comme celui de l'Ardèche qui est très très riche d'initiatives, de personnalités attachantes, et que l'on peut véritablement développer quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que quand nous avons créé Melvita, au départ, nous n'étions qu'une poignée, que c'est devenu une entreprise où il y avait plus de 300 salariés, que nous avons créé aussi des laboratoires de sous-traitance qui ont nécessité l'apport de personnalités extérieures. Mais quand on crée une maison d'édition, on peut très bien avoir un vivier dans un territoire comme celui de l'Ardèche et avoir aussi des expertises extérieures. C'est exactement ce que nous avons essayé de faire en créant Ozoni, qui est une maison d'édition qui porte un projet qui nécessite une dizaine de personnes pour l'heure, qui est une revue qui porte sur le voyage philosophique, spirituel et intellectuel, et qui a vocation à se trouver partout, dans tous les pays francophones, dans les kiosques et les librairies.
Alors restons, avant de venir sur cette nouvelle revue, revue livre, hein, on le verra, puisque ça se trouve également, vous l'avez dit, en librairie. Justement, on parle souvent de l'Ardèche comme d'un territoire enclavé, manquant de structures de déplacement. Je pense là au chemin de fer, je pense par exemple au manque d'autoroute, ou en tout cas de deux fois deux voies, comme on le dit. Quel est votre sentiment justement là-dessus? Est-ce que, en voyant évoluer cette Ardèche depuis plus de 30, 40 ans, vous avez trouvé que ça allait mieux et que vraiment il y a toujours eu ce manque qui a handicapé entre guillemets notre territoire?
Je crois qu'il ne faut pas se lamenter sans arrêt et qu'on peut pallier un certain nombre de choses par aujourd'hui les techniques qui existent. Alors c'est vrai qu'il y a un enclavement numérique aujourd'hui quand même du territoire. Même s'il y a eu des efforts de fait, je pense que là il y a encore beaucoup à faire parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses passent par le numérique. Même si moi en tant qu'éditeur de papier, je ne suis pas un fanatique du numérique, je crois quand même que c'est indispensable que de ce côté-là, il y a encore des efforts de fait. Mais en termes logistiques, en termes d'infrastructure, je crois qu'il faut que là-dessus on soit conscient que dans une large part du territoire, même si c'est pas toujours vrai partout, parce que nous on est en Ardèche méridionale, on a quand même un certain privilège par rapport à ceux qui sont dans les montagnes Cévenoles, mais je crois qu'on peut effectivement considérer qu'en 25 ou 30 ans, il y a eu de gros efforts de fait et des aménagements significatifs qui ont quand même facilité le fonctionnement.
Et dans la création, justement, aujourd'hui, lorsqu'on veut se lancer, je ne sais pas si ça a été votre cas, est-ce qu'on trouve un appui politique, enfin, ou en tout cas, est-ce qu'on trouve auprès des politiques un appui suffisant, nous disant, allez-y, on va vous aider, on peut faire des choses. Le fait, par exemple, que vous vous installiez dans la pépinière d'entreprise de La Chapelle, est-ce que c'est un plus, par exemple, pour votre maison d'édition?
En soi, l'existence même d'une pépinière, ou de deux, puisqu'il y en a deux en Ardèche, c'est quelque chose de très intéressant. Je crois que quand j'ai commencé, en fait, à me relancer, j'avais quand même une longue expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, je me suis dit, il faut que je me positionne quelque part. Alors, quand j'avais créé Malvita, je m'étais mis sur le sommet d'une montagne, et j'avais créé de toutes pièces une usine. Mais quand j'ai voulu créer cette maison d'édition, le temps était plus court pour moi, il fallait que j'aille plus vite à l'essentiel. Et donc j'ai cherché sur la région d'Aubenas pour me localiser, et c'est vrai que là, je n'ai pas trouvé de bureau correspondant à ce qu'il fallait. Je n'ai pas trouvé effectivement de lieu pour se positionner et démarrer de façon significative. Je me suis donc tourné vers la pépinière, et là, j'ai constaté que d'une part, ça a amené à la fois la fibre optique, des logements, je dirais, à bas prix, la possibilité de démarrer, un esprit d'équipe, et tous les outils nécessaires pour démarrer. Et donc ça, je ne peux que saluer l'initiative qui a été prise de créer une pépinière d'entreprise. Vous savez qu'on peut y rester seulement 4 ans. Je trouve que c'est un temps correct pour voir si on peut démarrer. Mais je vois bien que ceux qui vont en sortir ont du mal à se reloger. Donc ça, c'est quand même une vraie problématique. Par contre, je crois que véritablement, si on veut démarrer, et dans ce cadre-là, on a tous les outils pour le faire.
Ultrea, revue du voyage réel et spirituel, un magazine livre des éditions Ozoni. Alors peut-être qu'on va expliquer rapidement ces deux termes. Tout d'abord, la maison d'édition, Ozoni.
Alors Ozoni, c'est un mot navarro. Les Indiens navarros sont une des plus grandes communautés des Amérindiens. Ce mot, il signifie, il a une référence à la voie de la beauté, à la voie de l'équilibre, voire la santé au sens large. Donc c'était quelque chose qui nous touchait, et c'est un mot que j'avais retenu et déposé il y a plus de 20 ans, en pensant qu'un jour je ferais peut-être une maison d'édition. Comme quoi, c'est pas tout à fait par hasard que l'on fait sur le tard ce genre d'entreprise. Ultrea, c'est un autre terme, c'est un terme latin qui vient de ultre, donc plus, et c'est le plus loin, nous allons plus loin. Nous allons plus haut. C'est un terme qui est utilisé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, notamment dans la région de Conques, et que tout le monde connaît bien quand on a parcouru un peu longtemps ce chemin. C'est le plus loin, plus haut, c'est un cri de ralliement, et c'est aussi une invitation au dépassement métaphysique et à la quête spirituelle, à l'aventure spirituelle. Et c'est tout notre projet. C'est-à-dire, nous estimons que le voyage et le dépassement sont des invariants de l'âme humaine. Donc nous voulons, en fait, au travers de cette revue, qui est très universaliste, puisqu'elle ne s'adresse absolument pas seulement aux pèlerins et Saint-Jacques, mais à toutes les traditions, à tous les mouvements ethnologiques, à tous les arts, le symbolisme, et qui veut toucher tout ce qui fait, en fait, la culture humaine, et tout son intérêt aussi, et pourquoi les gens sont partis sur le chemin longtemps, sur tous les chemins, en quête d'autre chose. Juste ouvrir ses œillères et aller à la rencontre des autres. Et d'ailleurs, il y a une rubrique qui s'appelle aussi Pérégrinus l'étranger, qui se veut une rubrique d'ouverture aux gens qui sont restés sur le bas-côté, qui ont des difficultés, qui sont quelquefois sans logis ou dans des difficultés, mais qui se ressourcent et qui redémarrent. Je n'imaginais pas de faire une revue sur le voyage spirituel, intellectuel, philosophique, sans me tourner aussi vers les autres.
Vous êtes vous-même marcheur, vous êtes vous-même voyageur?
Je suis un amoureux du voyage, un amoureux de la photographie, c'est aussi pour ça qu'on en trouvera beaucoup dans la revue. Je ne suis pas un grand marcheur, même si j'aime beaucoup la marche. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de développer autant que je l'aurais voulu toutes ces activités. J'ai été pris pendant 35 ans par des activités qui commencent par l'apiculture et qui se finissent dans l'entrepreneuriat d'une grande multinationale. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps que l'on veut, mais j'ai eu aussi la chance de pouvoir voyager dans beaucoup de pays, même si je ne l'ai pas fait avec autant de possibilités d'entrer en communication avec les populations que je l'aurais voulu.
On voit sur la couverture spiritualité, métaphysique, philosophie, ethnologie, symbolisme et religion.
Le mot religion est connoté aujourd'hui, le mot spiritualité me semble plus large. La religion, c'est quelque chose qui, effectivement, trouve toute sa place dans notre revue, mais qui peut sembler restrictif pour les gens qui, aujourd'hui, sont en quête d'autre chose. Mais je n'y vois rien de péjoratif, et moi, j'utilise volontiers le mot aussi, mais je veux pas que ça donne le sentiment que c'est quelque chose de fermé. Pour moi, la quête spirituelle, c'est-à-dire donc de l'esprit des gens, est très ouverte et doit être très ouverte. C'est pour ça qu'on traite aussi d'écologie, que par exemple on accueille Pierre Rabhi dans ce premier numéro au travers d'une intersection. C'est qu'on veut parler à tous ceux qui sont en quête d'un autre monde, d'un autre univers que celui qu'on nous propose, que la société marchande nous propose.
Spiritualité et religion ne sont pas obligatoirement liées, c'est ce que vous voulez dire aussi.
Elles ne sont pas antinomiques, elles sont liées par la force des choses, puisqu'elles parlent toutes de la même chose. Mais la connotation que peut laisser supposer ce terme aujourd'hui, nous n'avons pas voulu le garder. Néanmoins, j'ai écrit longtemps dans une revue qui s'appelait « Connaissance des religions », et donc ça montre que je n'ai aucune restriction par rapport à ce terme.
Alors Ultria, essayons de le présenter pour ceux qui ne l'ont pas entre les mains, il est là. Combien de pages ? C'est un livre, tout d'abord c'est un livre, hein. On peut dire que c'est plus qu'une revue, c'est quasiment, enfin moi quand je le vois, je vois là un livre plus qu'une revue. Ça c'était une envie, on n'est pas avec un géo entre les mains, hein. Voilà ce que je voulais aussi.
Ça participe de ce que l'on appelle aujourd'hui en jargon journalistique les MOOC, c'est-à-dire les magazines, livres, qui permettent avec un rythme trimestriel ou semestriel d'offrir ce que justement n'offre plus la presse quotidienne ou la presse même hebdomadaire, c'est-à-dire du temps long, du temps de lecture. Elle va aux antipodes de cette façon que l'on a sur le numérique de survoler et de s'arrêter très très peu, quelques minutes sur chaque sujet. L'idée de ce magazine-livre, qui est clairement un livre-magazine ou un magazine-livre selon le terme que l'on prend, c'est comme un gant, on peut le retourner, l'idée c'est de proposer à la fois des articles de fond, à la fois de l'image en quantité significative avec un graphisme soigné et une recherche iconographique de qualité, c'est de proposer un outil de réflexion. Donc c'est vrai que c'est un livre puisqu'on le trouve en librairie, et c'est aussi un magazine parce qu'on le trouve aussi dans les kiosques et dans les grandes maisons de la presse. Je crois que aujourd'hui c'est très difficile pour les quotidiens parce qu'on trouve toute l'information sur le web. Un magazine hebdomadaire apporte déjà plus de matière et permet de se ressourcer sur une semaine, mais il ne permet pas quand même, parce qu'il n'en a pas la place et les moyens, de se développer. Alors nous avons choisi un format de 220 pages, il n'est pas exclu que de temps en temps on aille jusqu'à 230 ou 240 pages, mais l'idée c'est que nous offrions de l'espace, de la facilité de lecture au sens graphique du terme, et que l'on permette par des explications que nous appelons les plus loin, plus haut, d'aller au-delà de simplement le premier jet d'un auteur qui peut être un spécialiste de la matière, puisque là il y a 23 rubriques. 23 rubriques qui vont essayer de couvrir tout le champ, je dirais, de l'intelligence humaine, même si sur certains champs comme la science on sera moins pertinent, mais je crois que logiquement on doit pouvoir intéresser un très large public. L'idée, même si on a mis des cahiers métaphysiques au cœur qui sont un peu plus difficiles, c'est d'offrir plusieurs niveaux de lecture et de donner envie de découvrir de nouveaux sujets, de s'intéresser à de nouveaux sujets.
Il y a des auteurs, enfin, quand je lisais justement tout à l'heure quelques pages, parce qu'on peut feuilleter quelques pages aujourd'hui sur Internet de ce nouveau livre revue, magazine, je ne sais plus comment l'appeler. C'est vrai qu'il y a des noms qui nous frappent l'esprit, des noms dont on avait entendu parler. On a envie de retourner chercher quelques autres lectures. Je pense par exemple à René Guénon et le symbolisme que je vois là en première page. Ou encore Pierre Rabhi, puisqu'une rencontre est proposée avec lui dans ce premier numéro. Numéro trimestriel. J'allais dire de saison, puisque vous avez démarré, il est sorti depuis la semaine dernière, nous étions le 2 octobre. Cela veut dire qu'à chaque nouvelle saison, nous aurons un nouveau Ultria.
Tous les 3 mois, nous aurons effectivement des saisons. Le rythme saisonnier me convenait bien pour cela, puisque je me suis posé la question évidemment du rythme, mais il s'est imposé tout de suite à nous parce que le rythme des saisons correspond aussi à une activité que nous pouvons développer. Et puis créer, il faut être clair, un magazine de cette densité-là, il faut bien 3 mois. C'est déjà un très très gros travail et nous faisons appel à beaucoup de compétences extérieures en termes de notamment d'écriture. Nous avons un gros travail iconographique à faire, donc c'est clair que l'on voulait apporter un outil significatif. Donc le premier sort en automne et le second sortira en janvier, tout début janvier, le 8 janvier normalement, il sera en kiosque et en librairie. L'idée c'est que cette revue perdure pendant 3 mois quand même sur les lieux de vente, et nous avons, grâce au très bon réseau de distribution qui est le nôtre, puisque le groupe Bayard a bien voulu nous accompagner dans la diffusion en presse et une filiale du groupe Gallimard pour la librairie, nous voulons être présents dans toutes les kiosques et toutes les librairies tout le temps de cette saison.
Et puis la saison, ça marche bien un peu aussi avec l'idée. La saison rythme la vie de l'homme et peut-être aussi de sa spiritualité.
Absolument, c'est une revue qui est ancrée dans l'espace et le temps et qui veut donner du temps au temps. Et donc en l'occurrence, c'est ce que nous essayons de faire.
Alors cette envie, si j'ai bien compris tout à l'heure dans vos propos, elle a 20 ans. En tout cas, vous aviez déjà retenu l'idée d'édition quand vous aviez parlé de retenir ce terme ozonique, vous aviez déposé. C'est une idée vieille de 20 ans ou est-ce que c'était un passage de votre vie, vous l'aviez oublié et là maintenant c'est...
Je suis un boulimique de lecture, un passionné de littérature, je suis un gros acheteur de livres et depuis très longtemps je suis passionné par l'écriture. Donc moi-même j'écrivais très très jeune, j'ai commencé à écrire. Et en l'occurrence, cette envie d'écriture et d'explication, de mise sur le papier, et même le côté sensoriel du livre, a toujours eu une forte attraction pour moi. Quand je me suis lancé dans mes études, j'ai fait de la biologie, mais j'aurais pu faire de l'ethnologie, et peut-être là j'aurais plus écrit. Mais j'ai été rattrapé par mon envie de nature, et c'est pour ça qu'au tout début, puisque je suis bordelais, je me suis installé en Ardèche pour avoir une vraie nature, une nature que j'ai aimée tout de suite, et qui m'a permis de démarrer dans l'agriculture, on va dire, dans l'apiculture notamment, avant de me tourner vers l'industrie et l'artisanat, assez vite, mais pas tout de suite. Mais de tout temps, j'ai été un lecteur et un amateur d'écriture. Donc ça allait presque de soi, et j'ai toujours attaché beaucoup d'attention à tous les écrits que nous publions d'une manière ou d'une autre dans nos activités diverses, et donc ça n'est pas tout à fait nouveau. Ça faisait partie véritablement d'un goût et d'une envie. Et donc ça n'est pas tout à fait nouveau. Si il y a 20 ans, 25 ans, j'ai pu déposer un nom, c'est que déjà, quelque part, j'avais envie de le faire.
Il y a des écrits où vous allez écrire prochainement, peut-être que pour le premier numéro.
J'écris dans ce numéro.
Dans ce numéro-là déjà.
Et quand on est responsable de la rédaction, directeur de la rédaction, on doit écrire. Déjà, j'ai fait une feuille de route pour montrer un peu l'ambition de cette revue qui inaugure la revue. J'ai moi-même écrit plusieurs articles ou articles complémentaires pour éclairer les points. Je me suis investi également d'aller plus loin, plus haut. Il y a par exemple quelque chose sur Simone Veil. Simone Veil, l'auteur, philosophe, qui est d'une brûlante actualité. Et j'ai essayé de le montrer. J'ai fait un plus loin pour essayer d'expliciter ce que cette pensée pouvait nous apporter. Et puis sur d'autres auteurs ou d'autres éclairages, évidemment, j'ai mené l'interview auprès de Pierre Rabhi. Effectivement, je m'investis et je le ferai régulièrement.
Bernard Chevillat, vous venez de dire que vous êtes directeur de la rédaction de cette revue Ultreia. Parlons peut-être un peu de l'équipe qui vous entoure. Tout à l'heure, en début d'émission, on disait qu'on peut trouver ici, en Ardèche, des gens compétents. Est-ce que vous avez trouvé ces compétences sur le terrain pour cette nouvelle aventure?
Alors déjà, je crée cette entreprise, cette maison d'édition avec mon épouse, Nouriel, qui m'accompagne dans tous mes projets depuis le début. Et qui apporte ses compétences qui sont diverses et avec son expérience qu'elle a acquise au travers de toutes nos aventures précédentes. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est comptable, etc., elle en prend la charge, même si c'est pas tous les jours ce qu'elle préfère faire, puisqu'elle s'intéresse aussi au choix des photos. Elle travaille également avec une iconographe qui est sur Paris pour tout ce qui est images. Et puis nous avons des ressources extérieures comme un directeur commercial ou des personnes qui sont plus éloignées. Mais une des personnes clés aussi dans ce projet, c'est quelqu'un qui habite à Montpellier et qui est rédactrice en chef, Florence Quentin. Florence Quentin est égyptologue, elle est installée à Montpellier mais elle a longtemps opéré aussi sur Paris. Elle va publier prochainement un livre des Égyptes chez Robert Laffont qui est une somme de plus de 1000 pages, dont nous rendrons compte d'ailleurs dans le deuxième numéro. C'est un ouvrage qui montre le degré de compétence qu'elle a. Elle a également travaillé longtemps au monde des religions comme partenaire ou comme rédactrice en chef par intérim. Donc ça montre sa compétence reconnue. Et elle est avec moi l'une des deux personnes qui manageons l'ensemble de ce projet. Nous avons également sur place un directeur artistique qui est Patrice Brousseau, qui est quelqu'un qui a travaillé longtemps avec moi. Ça fait plus de 20 ans que nous opérons ensemble, pour pas dire plus. Et son talent fait que nous pouvons travailler ensemble de façon en confiance et que nous nous comprenons à demi-mot et que nous pouvons évoluer et faire rapidement évoluer nos projets. Il est également accompagné par Christine Courtois, qui est une personne qui a travaillé aussi avec nous dans l'infographie et qui apporte un regard très technique sur notamment la qualité des images et la qualité technique et la qualité graphique de la revue. Nous avons également Edwige Nicot, qui est une secrétaire de rédaction, qui est venue s'installer il y a quelques années en Ardèche, et qui d'ailleurs dont le mari est apiculteur, et qui est une journaliste expérimentée, puisqu'elle a plus de 20 ans d'expérience dans le journalisme, et qui est venue nous apporter sa compétence technique et son regard laser sur toutes les corrections qu'il faut apporter à une revue de cette nature. Nous avons également Valérie Montfort, qui vient de nous rejoindre, et qui a une grande expérience dans la librairie, puisqu'elle a été dans le web et la librairie, puisqu'elle a travaillé avec nous dans l'équipe Melvita auparavant pour la partie web, et qu'elle avait ouvert une librairie pendant 3 ans à Villeneuve-de-Berre, et qu'elle donc nous rejoint avec ce regard justement un peu croisé, ce qui est très intéressant, mais c'est quelqu'un que Fréquencette connaît, je crois.
Oui, plutôt.
Et qui plus est, donc ma fille également nous accompagne dans ce projet. Elle a mis toute son énergie extraordinaire à réaliser le site web de la revue et de la maison d'édition en un temps record. Et c'est un gros travail parce qu'il a fallu collecter énormément d'informations et mettre en ligne. Nous avons également d'autres personnes plus ou moins extérieures qui interviennent, mais il y a aussi des personnes comme Marjorie Beltranda, qui est à la fois ma collaboratrice et la déléguée générale de la fondation Melvita, que je pilote toujours, une fondation qui est dédiée à la protection des abeilles et à la sauvegarde de la nature. Et puis, je crois que je n'oublie personne, mon fils et une partie de ses équipes ont réalisé aussi toutes les vidéos que l'on peut voir, puisque en lien sur le site, vous pouvez trouver des flashcodes qui permettent de connaître ou des musiques ou des films d'auteurs qui explicitent un petit peu plus leurs projets, leurs voyages, et que le lien que l'on fait comme ça entre le web et le numérique et la revue me semble intéressant parce que ça permet de donner un peu plus, mais pas tout, sur le web,
d'aller plus loin,
et quelquefois plus haut.
Bernard Chevillat, merci. Je rappelle que vous êtes directeur de rédaction de la revue Ultrea. On n'a pas parlé vraiment aussi peut-être des projets de la maison d'édition. Je suppose que des projets sont déjà en cours, parce qu'il y a certes cette revue, revue livre, magazine, mais il y a bien d'autres choses aussi. En quelques mots, peut-être.
Le premier livre que nous allons publier va être publié à la fin de ce mois. Il va s'appeler Le Livre des Jours. Il s'appelle Le Livre des Jours. C'est un livre de Jean Biesse, un auteur qui est décédé au tout début de l'année et qui a écrit du 1er juillet 1950 jusqu'en 2007 un journal qu'on peut considérer un journal intime, mais c'est plus un journal intellectuel, spirituel, voyage. C'est quelqu'un qui a voyagé et qui a su restituer merveilleusement l'Inde ou le Mont Athos et qui a beaucoup, beaucoup écrit. Et qui a été, il était docteur d'État, il a été aussi enseignant, et qui avait une vraie plume. Il y a très peu de vrais écrivains qui ont ce niveau-là. Et il ne pensait pas que ce livre paraîtrait un jour, et je m'étais engagé à le faire, et nous avons travaillé jusqu'à fin décembre l'année dernière sur ce projet de livre, ce livre des jours, ce journal spirituel, et nous allons le publier. Je crois que c'est un très bel ouvrage. Il est dense, il fait 920 pages, c'est quand même le livre d'une vie. Il reprendra dans un autre ouvrage que nous publierons l'année prochaine qui s'appelle Le Deuil Blanc et qui va être la suite de 2007 à 2014, on va dire, ou 2012, qui correspond au deuil blanc qui est la maladie d'Alzheimer dont sa femme a été affectée et qui a transformé sa vie. Il était quelqu'un de fusionnel. Le Livre des Jours parle beaucoup de nature, parle beaucoup de toutes les rencontres qu'il a faites qui sont énormes. Il a visité énormément de philosophes, d'hommes spirituels tout au long de sa vie. Mais derrière ça, il y avait un véritable amour avec sa femme. Et la mort lente de sa femme a été une tragédie pour lui. Et donc, nous aurons un deuxième volume, beaucoup plus petit, qui sortira dans un an, qui est le journal d'un accompagnant, où l'on voit en fait cet accompagnement. Il y a de l'humour, il y a de la nostalgie, il y a de l'amour. Donc c'est un très beau livre. Et donc nous publierons les deux. Nous avons aussi comme projet de publier très rapidement un livre sur le voyage, écrit par un auteur australien qui va s'appeler En fuyant Hérode, et qui est un voyage qu'il a fait, que cet auteur, qui est un auteur connu, très connu en Australie, tout au long du Nil, en remontant le trajet que la Sainte Famille donc Marie, Joseph et l'enfant, sont censés faire tout au long du Nil et que les Coptes conservent pieusement comme étant quelque chose de véridique, puisqu'on en connaît assez peu, mais il y a tout un tas d'écrits et de personnes qui vous racontent tout au long du Nil le vrai périple de la famille pendant 3 ans qui fuyait Hérode, donc de l'enfant Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que ce périple donne à l'auteur l'occasion de croiser beaucoup de légendes, de croiser beaucoup d'écrits et de raconter de façon extrêmement vivante un voyage tout au long du Nil, dans l'Égypte d'aujourd'hui, mais également dans l'Égypte d'hier.
Bernard Chevillat, merci d'être venu jusqu'à nous pour nous présenter ce nouveau projet, pour présenter Ultria, qui est donc en librairie et en kiosque depuis le 2 octobre dernier, ce premier numéro de 220 pages, si j'ai bon souvenir. Eh bien, on le trouve aussi en commande, je suppose, sur le site internet, on peut s'y abonner, etc. On peut aider cette revue aussi à démarrer, elle en aura besoin. On se retrouvera, nous, donc, la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Notre invité n'est pas encore connu, donc je ne peux vous le citer. Merci.
Merci à vous.
Et bonne aventure, donc, à Ultria pour aller plus loin, plus haut, sur les chemins de la sagesse. Au revoir.